France Inter, le 18-20.
On va pas se raconter des mythos dans l'espace de coworking qui est notre bureau du 6e étage. On a tout de suite surkiffé l'idée de recevoir ensemble Alain Rey et Riyad Satouf. Les mots du dico et les mots de la petite Esther qui a 13 ans maintenant. Quel joli mélange qui parle exactement de ce que sont les mots. La société nous les souffle, la rue, la vie, les lance en l'air et l'usage les rattrape. Parfois oui, parfois non. Les médias aussi. Et puis les faiseurs de dictionnaires qui ne sont pas du genre à vacher sur un canapé réalisent que ces mots ont leur place. Tout ça des choses d'une société, de son état, au fond même de son moral. Alors on est en mode trop content quand on voit entrer Serrano et Prosecco, ce qui semble logique puisque apéro est là depuis longtemps. On est en mode vénère quand on voit entrer démocrature, transphobie, un fox, mais ça signe aussi notre époque. On est en mode ah bon quand on voit entrer amphiroapé. Et là, il va falloir m'expliquer parce que personnellement, comme dirait Esther, j'ai trouvé ça super chelou. Allez, c'est parti.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Allez Sarah, c'est vous la première qui ouvre le bal ce soir. Bienvenue Sarah.
Hello.
Hi.
Bonjour la France.
Et bref,
France Inter, merci beaucoup pour votre émission. C'est absolument génial.
Super. Vous n'avez pas de questions Sarah?
Par rapport aux Français,
okay,
je suis irlandaise à la base. Je suis venue en France il y a bien longtemps et j'ai appris le français en fait. Et mot à mot. Et mot à mot, ça veut dire comprendre réellement ce que veut dire les mots. Donc le sens des mots, la poésie des mots, voilà, entre autres. Donc en tant qu'anglophone, travaillant en France, le vocabulaire économique qu'on utilise aujourd'hui est évidemment, pour moi, de bon sens, mais pour la France, c'est un raccourci. On va droit au but, certes, mais ça saute ce que c'est la France, en fait, entre autres.
Attendez, j'ai pas compris, Sarah, excusez-moi. Est-ce que je peux avoir un exemple, en fait?
Allez-y.
Pardon?
Par exemple, le coworking.
Ah, ok.
Non, enfin, entre autres. Enfin, l'utilisation de l'anglais en France, dans
d'accord,
le monde économique,
d'accord,
c'est un drôle de sens, en fait. C'est avouer qu'on est que les Français sont largement à l'échec dans le monde économique. Donc on va on utilise des mots d'autres langues pour aller droit au but.
D'accord.
Donc le coworking, entre autres.
D'accord, je vois. Donc effectivement, comme on a perdu la bataille économique, on a aussi perdu la bataille de la langue en même temps, au fond, Sarah, c'est ce que vous dites.
Exact. Enfin, c'est une espèce de soumission, entre guillemets, à une soumission à un système dont les Français, entre guillemets, s'avouent, donc finalement, battu, mais, entre parenthèses, le Français porte toujours son nuance, sa façon d'être, etc. Mmh. Je vous donne un exemple.
Allez-y,
aux États-Unis,
un dernier.
Aux États-Unis, dans le monde du droit.
Ouais.
Donc le droit, ok, qui est même quelque chose qui est très ancré. Enfin, c'est au-delà de l'économie, c'est le droit, c'est quelque chose qui est quand même droit.
Allez-y, voilà. Sarah, si vous voulez être droit au but, vous aussi, ça m'arrange en fait.
Ok. Donc le droit, par exemple, lorsqu'on parle de Trump, il y a des avocats spécialisés dans le droit constitutionnel qui parlent non pas de Trump, mais qui parlent de l'affaire russe.
De quoi?
De l'affaire russe. Quand ils évoquent. Oui, exact. Ils disent l'affaire russe, voilà, donc avec leur accent, etc., mais c'est écrit en français, etc. Le droit au Royaume-Uni, c'est être appelé au barreau, to be called to the bar, donc, le français, c'est vraiment, réellement dommage que, c'est vraiment dommage que la France veut, pour être cool, de parler de week-end, etc. Ok, ça, oui.
Ok, mais, on a compris, pardon Sarah, mais on a compris ce que vous disiez, il faut pas, pour être cool, comme on dit, employer des mots trop anglicisés, on va forcément y venir. Et puis surtout, effectivement, il y a cette idée, c'est ça que je trouve plus intéressant dans votre question, effectivement, merci beaucoup, que au fond, c'est parce qu'on a le sentiment d'avoir perdu une bataille qu'il faut absolument utiliser certains mots. Allez, pour répondre à tout ça, pour discuter ensemble, ensemble toutes, je vous les présente pas pour discuter ensemble jusqu'à 20h. On a Alain Rey, linguiste, lexicographe, le Robert c'est vous, le maître d'œuvre Alain Rey c'est vous, et Riyad Satouf, l'auteur de BD. On parlera d'Esther un petit peu, qui emploie pas tellement d'anglicisme en fait, Esther. C'est autre chose chez les jeunes en fait, non?
Non,
en tout cas,
c'est vrai qu'elle l'utilise assez peu. Oui.
Non, c'est vrai, elle est pas comme ça. Ça vient après, au fond, Alain Rey, l'anglicisme. Est-ce qu'elle a raison, Sarah, sur, au fond, la bataille économique, on l'a perdue, du coup, on emploie les mots?
Elle aurait raison, mais pas avec les exemples qu'elle a donnés, parce que le fait qu'un anglicisme soit déformé et insuffisant par rapport à sa source, c'est une généralité absolue. Regardez les mots de la gastronomie en anglais, qui sont des gallicismes, le plus souvent pris au français. Ils sont toujours pris dans un sens qui a changé, qui est déplacé par rapport à l'origine. Et d'une manière générale, un emprunt, c'est jamais quelque chose de direct. Elle a beaucoup répété cette formule très française, droit au but. Mm-hmm. Mais en fait, l'emprunt, c'est pas du tout droit au but. C'est-à-dire que on prend à une langue étrangère un élément de discours et on en fait autre chose. On en fait autre chose phonétiquement, pour commencer. Et je suis très intéressé par le fait que les remarques qui viennent d'être faites ont été faites par une Irlandaise, parce que c'est le témoin même d'une nation et d'une communauté dont la langue, qui est une langue celtique, a été bouffée toute crue par la langue anglaise.
Mais à quel moment on décide que coworking, c'est l'exemple qu'elle donnait par exemple, que coworking, c'est coworking dans le dictionnaire, dans le Robert, et pas espace de travail partagé?
C'est uniquement quand on voit que la diffusion du mot anglais à l'écrit comme à l'oral, et nous avons pour ça un centre de documentation qui est très à jour et qui est beaucoup facilité par l'informatique maintenant, et dans lequel on réunit des témoignages de paroles spontanées telles qu'on les trouve aussi bien dans la littérature que dans le droit, que dans les affaires. Et c'était très très juste de dire que la langue des affaires est complètement perméable à l'anglicisme et par des gens qui généralement savent très mal l'anglais. Mmh. Ça s'entend vite. Donc il y a des problèmes phonétiques, il y a des problèmes de sens, tout est déformé, parfois tout est simplifié. Nous disons un parking et nous ne disons pas un parking.
C'est vrai.
Et en fait, ça n'existe pas en anglais où c'est parking lot. Mmh. On a parking tout seul, c'est le fait de se garer, c'est autre chose. Donc il y a des déformations aussi bien dans l'usage des mots, dans leur prononciation, dans leur signification, dans la manière de s'en servir, parce que la pragmatique, c'est-à-dire la façon concrète de se servir des mots et de s'en emparer, est différente suivant les communautés linguistiques. Et même, ils sont différents à l'intérieur de la même communauté linguistique. On ne parle pas de la même façon en Irlande et en Nouvelle-Zélande. On entend en ce moment la première ministre de la Nouvelle-Zélande très très souvent. Elle a un accent qui est très étrange pour un Américain et qui est aussi très différent de celui des îles britanniques. Donc, si vous voulez, à l'intérieur de chaque langue, il peut y avoir une espèce de déploiement comme ça de possibilités. Et le français par rapport à l'anglais est dans cette situation, mais il faudra en parler très très longuement, parce que l'anglais a des avantages que le français n'a pas, la rapidité d'expression, la souplesse et la complexité des manières de s'exprimer d'une manière simple. Le français est beaucoup plus tarabiscoté, beaucoup plus syntactique, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus littéraire en un mot. Malgré Shakespeare, que les anglais ne comprennent plus entre parenthèses.
Vous disiez, vous parliez effectivement de l'écrit et de l'oral, et c'est ça qui est intéressant dans votre confrontation à tous les deux, Riyad Satouf et Alain Rey. Au fond, Riyad Satouf, les mots d'Esther, c'est des mots qu'on jette comme ça en l'air, et qui peut-être un jour ou l'autre finiront par atterrir dans le dictionnaire. Ça commence par la rue, quand la BD s'en empare, et puis d'autres après, puis à la fin, ça finit dans la besace d'Alain Rey, au fond.
Ah oui, c'est possible. Par exemple, il y a quelques jours, je discutais avec Alain, et il y a un mot que Esther emploie souvent, et d'ailleurs, de plus en plus, c'est un petit mot qui est utilisé par beaucoup de jeunes, c'est wesh.
Ouais.
Et elle dit toujours, ah ouais, il m'a dit wesh, ça va, etc. Et en fait, en discutant avec Alain, je voulais savoir d'où ça venait. En fait, il est dans le Robert depuis longtemps, et en fait, c'est un mot d'origine algérienne dialectale qui signifie, il y a quoi. Et en fait, on se doute bien que ce mot a fini par rentrer dans le dictionnaire parce qu'il est énormément utilisé, et je crois que c'est la base qui fait qu'un mot va rentrer dans le dictionnaire.
Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi ce que disait Alain Rey sur coworking, qu'on prononce coworking et pas coworking. Wesh, chez vous, ça s'écrit O-U, ça s'écrit pas W-E, en fait.
Alors oui, moi, j'avoue, je l'écris comme ça, normalement. Alors, l'écriture, dans le petit Robert, c'est écrit W-E-C-H. Mm-hmm. Mais les jeunes, en général, ils l'écrivent W-E-S-H.
Oui, à l'américaine. Oui, voilà. Parce que C-H, en anglais, c'est tch.
C'est ça. Et alors, c'est vrai que comme Esther, quand elle l'emploie, elle dit, alors, il m'a dit, wesh, ça va. Je trouve que c'est plus rigolo de l'écrire O-U-E-C-H-E. Un wesh à la française, comme si c'était un...
Mais c'est signalé dans le Robert aussi.
C'est A-I-C-H dans le Robert.
Ah oui.
Et comment vous avez décidé d'ailleurs comment ça s'écrivait, du coup? Est-ce que vous, pourquoi faut pas demander à Esther comment ça s'écrit? Et je dis ça à moitié en plaisantant, au fond, à Lara, parce que c'est ce que je disais, il y a un moment où ça passe des cahiers d'Esther jusqu'au petit Robert, en
oui,
fait.
Mais c'est passé d'Esther parlant. Mm-hmm. Et si on lui demandait comment elle l'écrit, elle serait bien embarrassée, parce que je suis pas sûr qu'elle sache comment elle l'écrit.
Non, elle l'écrit en langage SMS, elle, je sais pas ce que ça doit donner d'ailleurs.
WSH.
Elle l'écrit en son, en fait, c'est intéressant.
Et alors, c'est curieux, parce que cette graphie WSH donne l'impression que c'est un anglicisme. C'est-à-dire que non seulement on avale des milliers de mots anglais, mais quand on prend un mot arabe, on essaie de le changer graphiquement pour qu'il ressemble à de l'anglais. Ça, c'est monstrueux, je trouve.
Allez, Pierre, bonsoir. Soyez le bienvenu, Pierre.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci à France Inter pour toutes ces émissions. Monsieur Ray, merci à vous, votre savoir. Et Monsieur Satouf, merci pour vos BD que je lis et que j'apprécie beaucoup. Moi, j'avais juste une question à vous poser. Je viens de Charente. Alors, je suis né à Paris, mais voilà, je vais pas faire mon histoire. Mais je vis en Charente depuis plus de 20 ans et vous avez réussi à nous mettre ce mot « benaise » dans ce dictionnaire. Et ce mot benaise chez nous, sur les deux Charentes, hein, Charente-Maritime et Charente 16 et 17, c'est un mot qui pour nous est formidable, parce que quand on dit qu'on est benaise, c'est qu'on est vraiment benaise, quoi. Comment avez-vous trouvé ce mot? Où vous êtes allé le chercher? Et merci pour nous. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il est bien chez vous? Merci beaucoup,
oui.
Pierre. Il est bien chez vous, le mot benaise?
Oui, je suis très content de cette question, parce que une des caractéristiques des dictionnaires dont je m'occupe, c'est de ne pas s'en tenir au langage de Paris et de la région parisienne.
Il y en a plein.
C'est-à-dire
des mots.
C'est-à-dire de mettre des mots de la francophonie hors de France, mais aussi de mettre des mots des régions françaises qui sont tout à fait légitimes, qui viennent. Moi, je suis auvergnat. J'ai une panoplie de mots. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne mets pas tous les mots que je connais et que j'ai entendu dire par ma grand-mère ou par ou par des oncles et des tantes. Mais quand on a une preuve que ce mot est employé par, disons, entre 10 ou 20% de la population française, il mérite de figurer dans un dictionnaire général. Et là, il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Il y a des quantités de gens qui ont fait des petits dictionnaires épatants sur la langue de certaines régions, mais qui ne sont pas suffisamment connues. Donc, pour les faire connaître, le faire passer certains d'entre eux dans un dictionnaire général, c'est un bon moyen. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Rézeau, qui a fait un dictionnaire des régionalismes français, et figurez-vous qu'il n'est pas arrivé à le faire publier en France, il l'a fait publier en Belgique, chez Duculot. Et je suis absolument scandalisé par le fait que les éditeurs français sont tellement frileux qu'ils n'ont pas été foutus de vendre un dictionnaire des régions de France qui aurait eu certainement beaucoup de succès.
Alors vous, effectivement, dans le petit Robert, il y a des mots qui viennent des régions. Vous l'avez dit, vous avez fait aussi des apports qui sont chers aux Québécois. Ce qu'on fait depuis un bout de temps, baignerie par exemple, c'est québécois. On vend des beignets dans les baigneries.
C'est québécois. Je l'ai entendu en Belgique aussi.
Ah aussi. Et oui. Alors, moi j'ai une question. Pourquoi il n'y a pas divulgaché le nouveau mot à la mode chez vous? C'est les voisins qui a divulgaché. À quel moment on décide que c'est maintenant, on va le faire rentrer, en fait?
C'est une question de fréquence et de, disons, de s'installer dans la fréquence, et pas seulement dans la fréquence, mais aussi dans la répartition des usages. Si quelque chose n'est uniquement que dans le langage de l'économie, par exemple, c'était la première question, on ne va pas le retenir s'il n'est pas passé ailleurs. Le langage des banlieues, c'est le même problème. S'il reste dans les banlieues, il n'est pas fait pour un dictionnaire général. S'il passe dans les cours d'école, ce qui est très souvent le cas, donc il est absorbé par les parents ou par les amis qui les emploient mal, ces mots-là, ils se font foutre d'eux par les jeunes, à ce moment-là, ça mérite de figurer dans le dictionnaire. Même chose pour les mots des régions. Vous avez des mots des régions qui sont devenus des mots français à part entière. La kermesse, qui est un mot qui, au 19e siècle, n'était uniquement que dans le nord de la France. Personne ne connaissait ailleurs. Maintenant, c'est complètement général. Le magret de canard, ça n'est pas un mot français, c'est un mot occitan, c'est l'eau magret. Sinon, ça serait maigret si c'était fait en français. Mais la place était occupée par un commissaire de police que tout le monde
moins
connaît.
Moins comestible.
Donc ça marchait pas.
Riyad Satouf, est-ce que des fois, parce qu'on sait bien qu'Esther est inspirée d'une vraie petite Esther, est-ce qu'il y a des fois, il faut demander des explications à la vraie Esther avant de le faire rentrer dans la fausse Esther? Parce qu'il y a des mots que vous pigez pas, en fait, des mots de cours d'école.
Oui, c'est vrai que c'est arrivé une fois ou deux, notamment je pense à une expression qui m'a étonné il y a pas longtemps, où elle, d'ailleurs qui est dans ce volume, où elle avait une petite copine qui faisait semblant d'être très féministe, et en fait, enfin c'est ce qu'elle disait, elle était impitoyable avec les autres garçons, et en fait elle était très amoureuse du pire garçon de la classe. Mm-hmm. Un truc un petit peu stéréotypé, mais c'était comme ça. Et elle a employé une expression, elle a dit, en fait, ma copine, en fait, elle est complètement refaite. Elle est refaite. Et refaite, je pense, dans son sens, comme si elle était refaite chirurgicalement. C'est-à-dire, elle est autre chose que ce qu'elle est.
Que ce qu'elle montre.
Que ce qu'elle montre. Et c'est être refait de. Et j'avais jamais entendu cette expression.
Et c'est formidable, parce que c'est pas à cet âge-là qu'on est refait, effectivement, qu'on s'est refait faire les pommettes et le nez, hein, ça c'est clair, ni les lèvres collagénées, heureusement. Mais en revanche, boum, on a pris l'expression pour soi, Alain Rey.
Bah, je rebondis sur la remarque de Riyad, qui justement, moi, m'intéresse énormément, parce que quand un dictionnaire sort, qu'il est mis à jour ou qu'il est nouveau, on va s'intéresser aux mots nouveaux. Mais attention, les mots nouveaux, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de glace au-dessous du niveau de l'eau, et ce sont les sens, les expressions, les manières de s'exprimer. Vous savez, j'aime bien le rappeler, nous disons dictionnaire. Dans dictionnaire, c'est pas mot qu'il y a, c'est diction. Mm-hmm. Diction, c'est la manière de dire. C'est beaucoup plus général que le mot. Et donc, le sens, c'est quelque chose qui est tout aussi important. Donc, si refait, alors il faudrait voir avec Esther si elle dit.
Si elle est d'accord.
On va la refaire, je pense pas. Je crois que c'est uniquement le participe passé. Donc, il faut créer un sens particulier pour refait en participe passé adjectif. Voilà.
Moi, ce qui me fascine dans les mots qui rentrent et qui sortent, en fait. Par exemple, c'était en 2016, où vous avez fait rentrer Zlatané, à cause de Zlatan Ibrahimovic. Mais à quel moment Zlatané va sortir? Parce qu'en fait, ça va sortir.
Pas.
Vous croyez pas que ça va sortir, non? Parce qu'on saura plus ce que ça veut dire, Zlatané.
Non, mais
en fait.
Enfin, tant que je serai là, ça sortira pas. Parce que
moi vivant, Zlatan restera
oui,
dans le remède.
Les mots que nous introduisons, c'est dans la mesure où ils marquent une époque, où ils marquent, ça peut être quelques années. Vous rappelez la petite trompette à la fin d'un match de football qui s'appelle la Pouvouzela.
Ouais. Bon, c'est les Brésiliens qui
plus
l'ont.
Plus personne n'a dit ça, pas du tout.
Ah bon?
C'est un mot zoulou.
Ah oui, c'est vrai, c'était en Afrique du Sud, pardon.
C'est le seul emprunt à la langue zoulou dans la langue française. Ah. Donc ça, moi, rien que pour ça, je pouvais pas le rater. Il y est et il y restera, même si personne ne le connaît plus. Le problème, c'est que la langue est une espèce de trésor qui s'enrichit de quantité de choses à peu près tout le temps, tous les mois, et tous les ans, c'est énorme. Mmh. Et c'était vrai au Moyen-Âge, comme c'est vrai maintenant. Donc, quand on peut récupérer quelque chose et le décrire, et bien le décrire, et qu'il est validé, si vous voulez, par un grand texte littéraire, par exemple, je le fais pas sortir, même s'il n'est plus compris, parce qu'il y a une raison très simple, c'est que une pièce de Molière, par exemple, ça passe à la télévision, on change pas les mots, ça passe, ça peut être à la radio, ça peut être dans des quantités de, au théâtre, bien entendu, et même si les gens comprennent pas, certains emplois de Molière méritent de figurer dans un dictionnaire général, non pas à titre de, vous allez l'employer, parce qu'on l'emploie pas, mais vous allez le comprendre. Donc ça, c'est... Vous savez, il y a quatre langues en français. Il y a la langue qui se dit et la langue qui s'écoute. Il y a la langue qui est active et la langue qui est passive. Il y a la langue qui est écrite et la langue qui est parlée. Et c'est pas les mêmes. Et il y a une langue générale et il y a une langue régionale. Et il y a une langue sociale. Et il y a une langue... À chaque fois, c'est des usages différents. Moi, je dis les Français au pluriel, pas seulement pour les nationaux de la nation France, mais pour les usages de la langue de tous les francophones du monde.
Riyad Sattouf, est-ce qu'elle a perdu des mots, Esther, en grandissant? Est-ce qu'elle va en perdre en grandissant? Parce qu'il y a des trucs qu'on dit plus quand on devient ado, quand même. Je sais pas, à un moment, on arrête de dire chelou parce que c'est que les petits qui disent ça, j'en sais rien.
Ah oui, oui, oui. Par exemple, bah justement, vous avez tapé pile juste chelou. Mmh. Je pense qu'il y a plus que les gens un peu de mon âge qui disent ça en
voilà.
Pensant que c'est encore un peu jeune.
Ça y est, c'est
jeune.
Déjà Asbin, ouais.
Chelou, c'est un petit peu... C'est complètement passé. Et c'est vrai que même dans la façon qu'elle a de faire des efforts de langue, elle a des nouvelles expressions et tous les trucs qu'elle utilisait. Par exemple, elle utilise beaucoup plus en mode. Mm-hmm. Enfin, en mode, ça tout est en mode maintenant. Quand elle était petite, elle le faisait de temps en temps. Alors, elle utilisait stylé. Maintenant, elle le fait un petit peu moins. Elle dit moins ce stylé, mais en mode. On sent que c'est un tic de langage très fort qui est en train d'arriver.
Un peu comme juste. Il y a eu un moment la mode du juste, hein. C'est juste parfait, c'est juste génial.
Oui, tout à fait, oui. Ça, on l'a noté, c'est dans le dictionnaire.
Voilà. J'ai presque envie de dire quand même vivement qu'on s'en débarrasse, Alain Rey.
Ah, mais tout à fait. Je veux dire qu'il y a dans le dictionnaire des choses qui ne mériteraient pas d'exister, mais elles méritent de figurer
et des gens,
dans le dictionnaire parce qu'elles sont effectivement employées. Et la langue appartient à ceux qui la parlent.
Donc, et justement, et en parlant des gens, parce que je disais les mots, des fois s'en vont, vous dites non, pas moi vivant pour le Zlatané, par exemple, mais moi j'ai été épatée de voir qu'Aznavour venait de rentrer. Mais comment ça, il n'était pas déjà dedans, Aznavour? Enfin, Riyad Sattouf était dans le Robert et pas Charles Aznavour, alors. Michel Legrand, Stanley.
Oui, mais parce que là, c'est un tout autre problème. Hein. C'est absolument sans rapport. La sélection des noms propres qui rentrent dans un dictionnaire de noms propres n'a rien à voir avec la sélection des mots qui rentrent dans dictionnaire de langue. Parce
j'imagine.
Que le dictionnaire de langue, c'est l'usage, et c'est l'usage statistiquement important. Et quand le mot est employé, il n'y a pas de question. La notoriété, c'est tout autre chose. Et d'année en année, de mois en mois, de jour en jour, vous avez d'immenses notoriétés dont on sait qu'elles vont pas durer. Vous avez des notoriétés négatives, des assassins, des choses comme ça. Monsieur Petiot est dans les dictionnaires.
Sûr, c'est ce que je disais, il y a des gens qu'on a envie de voir disparaître, mais on peut pas. Ils sont
on
dans
peut pas, quasiment le seul. Mais ça veut dire qu'il y a un niveau... Alors, si on s'en tenait, par exemple, aux premières pages des journaux, il y aurait... énormément de footballeurs, il y aurait énormément de cyclistes. Bien sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. On ne met que les gens qui ont une espèce de valeur symbolique générale et qui dépassent leur propre situation sociale pour représenter une grande collectivité. Donc, si vous voulez, Aznavour, à un certain moment, devient quelque chose qui est aussi important. Il y a le cas Léo Ferré, il y a le cas... Enfin bon, c'est Brassens y est dès le début. Pourquoi ? Parce que il y a chez Brassens deux personnages, un chanteur et un poète.
Voilà. Et Mbappé est rentré tout de suite, bien avant plein d'autres. Bonsoir Carole.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Carole.
Merci. D'abord je voulais juste dire, là, par rapport aux mots qui disparaissent, je me rends compte que Daron, il était utilisé pour la génération un tout petit peu avant moi, j'ai 50 ans, et mes enfants l'utilisent aujourd'hui, comme quoi les mots ont une mode aussi.
Ouais, ils reviennent. Ouais, c'est comme, voilà, c'est bon, comme les fringues, ça va et ça vient.
Voilà, exactement, donc faut pas les jeter. Et là, en fait, moi, j'appelais parce que tout à l'heure, Monsieur Nicolas Rey disait que on faisait rentrer selon l'usage des mots. Et en fait, en ce moment, je me rends compte que tout le monde dit je vais visiter ma mère, je vais visiter des amis, je vais visiter. Et on visite pas ses amis, on leur rend visite. Et en fait, moi, je suis traductrice et au bout d'un moment, ça me pose problème. C'est comme voir même, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et donc, à quel moment je reste dans le français que je considère comme correct, ou à quel moment, ben justement, je traduis pour que tout le monde comprenne. Vous voyez, où est la limite?
Mais excellente question, Carole, et excellente problématique pour des traductrices comme vous, Alain Rey. Qu'est-ce qu'on fait quand on est Carole?
Qu'est-ce qu'on fait quand on est traducteur? On se méfie des dictionnaires généraux, parce que comme le dictionnaire, quand il est bien fait, se veut un reflet de l'usage effectif, et que l'usage effectif est bourré de fautes, évidemment qu'il faut éviter certaines tournures. Une traductrice a tout à fait raison d'éviter le verbe « visiter », ou d'éviter, par exemple, le substantif « retour »,« merci pour votre retour » quand on répond, pour réponse. Bon, il y a des contresens comme ça qui sont extrêmement fréquents. J'ai remarqué qu'au point de vue du sens, et ça, aucun dictionnaire ne l'a noté, avant mon dictionnaire historique, c'est que le mot « compliqué » est devenu synonyme de « difficile ». ça n'est plus complexe, ce que ça devrait vouloir dire. C'est simplement que on a du mal, et même parfois impossible. Donc il y a des dérives du sens que le traducteur doit éviter parce que il faut qu'il soit dans une norme. Mais vous savez, le problème du traducteur, c'est le même que le problème du professeur. Mmh. C'est pareil. Il est dans une norme, il doit transmettre une image de la langue et une seule pour qu'il y ait une certaine compréhension entre les gens, parce que les usages sont si différents les uns les autres que s'il n'y avait pas l'école, on finirait par ne plus se comprendre de classe sociale à classe sociale, de région à région, et même de génération à génération. Et il est vrai que vous avez bien fait de remarquer ça, des mots qui disparaissent et qui réapparaissent. C'est aussi très très curieux, et on se demande comment un mot, par exemple, qui était courant au Moyen-Âge, qui réapparaît dans le langage des jeunes, qu'est-ce qui est arrivé? C'est très très difficile de savoir si c'est un prof, si c'est, voilà, la thune, par exemple.
Ouais.
Bon. Eh bien, la thune, c'est une monnaie, ça disparaît au XVIe siècle, et ça réapparaît au XXe siècle sous la forme la thune, et non pas une thune, deux thunes, trois thunes. Et tout le monde le connaît à partir de ça. Maintenant, c'est peut-être un peu périmé. Moi, je suis un peu affolé quand je vois mon ami Riyad qui me dit qu'on n'emploie plus bolos, qu'on n'emploie plus chelou. C'est vrai.
Moi aussi, ça me fait vieillir, c'est absolument horrible.
Ça nous fait vieillir.
Mais totalement.
Ça nous fait vieillir. Mais alors, que dirais-je, moi? Parce que j'observe la langue depuis...
Vous les avez vus revenir trois fois, en fait.
Depuis 60 ans, je les ai vus tourniquer, oui.
Et c'est marrant, l'exemple de daron, Riyad Satouf. En effet, les darons, les daronnes, c'est pas du tout du langage esther.
Et ben, en fait, elle le assigne. Elle
y revient, elle aussi, ou pas?
Parce que ça vient du rap.
Ouais.
Il y a beaucoup de trucs, ouais, ton daron, il a dit quoi, l'onda? En fait, elle l'utilise beaucoup, daron, pour le coup. Et elle me l'a expliqué bien, que ça voulait dire le père, etc. Voilà. Daronne aussi. Daronne. Alors, daronne, c'est beaucoup employé, notamment chez les jeunes qui sont un petit peu d'origine maghrébine ou orientale, pour définir une mère de famille qui a tout sur les épaules. Et c'est un marque de respect, c'est la daronne.
Ah oui.
Et ça, elle l'utilise aussi. Et
ça rime avec patronne.
Oui, c'est ça, exactement.
Comment elle fait pour l'argent, Esther? C'est de la thune, du flouze, on dit plus ça depuis 100 000 ans, depuis 1982 à 16h12?
Non, non, elle dit l'argent.
Ah,
elle voilà. Elle n'a pas la fascination encore pour l'argent complètement, elle n'a pas de mots particuliers.
Oui, mais fric, flouze, ça n'a pas disparu, ouais. C'est pas le problème, c'est pas les mêmes gens qui l'emploient, mais ça n'a pas disparu. Il y a des gens qui vieillissent et qui gardent les mots de leur jeunesse.
Fric, c'est resté, flouze un peu moins, on dit moins, mais bon, j'en sais rien.
Flouze, beaucoup moins.
Ouais,
beaucoup,
c'est vrai,
moins.
Mais thune, effectivement,
oui,
est revenue.
Si on avait une mesure exacte de la fréquence, qui est tout à fait possible maintenant avec l'informatique, on verrait les fluctuations. Mais vous avez un mot comme honneur, qui est employé toutes les 3 secondes au XVIIe siècle, et qui aujourd'hui, il faut le rechercher. Voilà. Là, il y a un problème de contenu, quand même.
Bonsoir, Yvon.
Bonsoir.
Bienvenue, Yvon.
Bienvenue, merci. Monsieur Larrey, bonsoir. Je regrette l'époque où vous étiez dans le matin à 7h sur France Inter.
Oh, bah, c'était l'époque des darons et des daronnes, ça.
Oui, bien sûr. Oui, c'est gentil, merci.
Deux remarques. D'abord, l'utilisation. J'écoute souvent beaucoup les médias, surtout France Inter et France Culture. L'utilisation sans arrêt de mots anglais, alors qu'il y a l'équivalent en français. Depuis 2 ans, on entend fake news sans arrêt, alors que le véritable mot français, c'est désinformation ou information mensongère.
Infox, c'est dans le Robert.
Oui, mais pourquoi dire infox alors désinformation? Si je dis, par exemple, je suis épuisé au lieu de burn-out, est-ce qu'on va me comprendre? Par exemple,
on dira je suis burn-outé, peut-être, en fait. On en fera un verbe.
Épuisé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Par exemple, j'ai entendu sur cette antenne il y a deux semaines, wishful thinking. Qui est-ce qui comprend ça? Ou je peux vous dire, par exemple, il y a quelques jours, j'ai entendu climax. Ou un autre, et pour terminer, le mot cuir. Alors, c'est en anglais, hein. Alors ça, c'était pour le paragraphe anglais. Maintenant, je vais parler le français et je vais pas me battre contre 67 millions de Français. Il y a toute une série d'adjectifs négatifs. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est pénible. Tous ces adjectifs ont disparu, il n'y a qu'un seul mot, c'est chiant. Chiant, quand je l'entends, entre parenthèses, je pense à des fécants. Bon, je suis peut-être bon. Et à l'opposé,
ça a moins d'impact.
Voilà. À l'opposé, il y a toute une quantité de mots qui sont positifs. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est sublime. Alors, il y en a plein. Ça a disparu. Tout est génial. Il fait jour, c'est génial. Il fait nuit, c'est génial.
C'est plutôt hyper ou super, maintenant.
Voilà. Les deux mots, génial ou chiant, ont complètement appauvri le français.
Merci beaucoup Yvon pour cette géniale question. Alain Rey, il y a beaucoup de choses en fait dans ce que dit Yvon. Alors il a raison, est-ce bien que sur le fond effectivement on s'est mis à... On a perdu du vocabulaire en fait.
On en a perdu et on en a gagné, c'est ça la question. Une langue est un organisme, comme un organisme vivant, qui s'invente des nouvelles cellules, mais qui en laisse mourir en même temps beaucoup. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Le problème est de savoir quel est le bilan. Et le bilan, c'est très très difficile à savoir. Et ça dépend si on parle de la façon personnel de parler. Et là, la remarque d'Yvon est très juste sur le fait que certains mots de très grande fréquence, qui sont souvent des mots vulgaires, parce qu'il y a eu une levée des tabous, donc con, merde, chiant, c'est hyper courant, et c'est que cette fréquence va évidemment interférer avec des synonymes plus corrects, plus anciens, plus normaux, qui du coup vont en souffrir. Mais ils vont pas mourir pour autant, je veux dire qu'il énumérait des mots superbes, magnifiques, etc., bah, tous ces mots-là sont bien entendus dans les dictionnaires dont je m'occupe, avec des citations littéraires, avec leur date d'apparition, avec des développements beaucoup plus importants que chiant. Mais chiant y est, il doit y être, parce qu'il est tellement employé. C'est chiant. Alors on peut le déplorer, hein. C'est vrai que le problème, par exemple, chez Esther, ça, j'en ai déjà parlé à Griat Satouf, c'est que elle a des tics de langage, on l'a dit tout à l'heure, avec en mode ceci ou en mode cela, ou comme vous disiez, juste il est juste salaud, il est juste machin. Et ces tics de langage sont à la fois un enrichissement puisque c'est une manière nouvelle de s'exprimer et un appauvrissement parce qu'ils vont encore une fois interférer et faire du mal. Il y a une expression qu'on met très très souvent dans les dictionnaires, il faudrait qu'elle soit comprise, c'est tel mot est en concurrence avec un autre. Parce que quand deux mots sont à peu près synonymes, l'un est en concurrence avec l'autre, et à certaines époques, il y a une préférence pour certains. Qui veut dire préférence pour certains, dit qu'on laisse tomber les autres. Et donc, il y a de la perte chaque fois qu'il y a un gain. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, donc quand Esther est en mode, en trop mode, trop de mode tue le mode, en fait, Riyad Satouf.
Oui, c'est vrai, oui. Ça me fait penser à quelque chose que disait Alain il y a deux jours, quand je lui ai demandé si, par exemple, au XVIIIe siècle, comment les gens prononçaient la langue française. Et il m'a dit quelque chose que je ne savais absolument pas, il m'a dit que tout le monde parlait comme ça, en roulant les R, enfin surtout la haute classe, et qu'en fait les classes inférieures parlaient comme nous parlons. Et qu'à l'époque, c'était déjà... il y avait, j'imagine, des gens qui disaient mais c'est la langue est en train de devenir complètement dégénéré, etc. Donc c'est marrant de savoir qu'aujourd'hui c'est devenu la norme et on a peur d'une dégénérescence de la langue alors qu'elle ne fait qu'évoluer. Ça se trouve dans...
À chaque époque, on a peur de ça. Il y a eu des moments où la langue française était réellement en péril. Je dirais que c'était au XVe siècle, quand après les grands succès de l'ancien français, qui est une langue magnifique et qui d'ailleurs, entre parenthèses, a été parlée pendant 2 siècles et demi en Angleterre, ce qui n'est pas rien, en léguant un nombre de mots considérable. Après, le problème est que la langue s'est délitée un peu, est devenue un peu incertaine. Les mots germaniques ont disparu, on a relatinisé, on a hellénisé en prenant des mots grecs à tout va, et nous en sommes encore les utilisateurs. Et il y a eu un moment très indécis dans lequel on ne savait pas comment ça allait se passer. Et puis il y a eu la Renaissance, et là tout s'est remis en place, parce qu'il y a eu des grands écrivains, des grands poètes qui ont créé des mots nouveaux, qui ont fait des dérivations, qui ont emprunté du latin, mais d'une manière vivante, comme Montaigne, qui est complètement latinisé, mais qui est tout à fait original dans sa manière de traiter la langue. Et je ferai remarquer que très souvent, ces gens-là n'étaient pas de langue maternelle française. Montaigne, sa langue maternelle était le latin. Et sa langue secondaire, avec les enfants, avec les domestiques, c'était l'occitan de sa région. Et pourquoi il a choisi d'écrire en français, voilà, c'est comme ça que le français est devenu ce qu'il est.
Marie, bonsoir, c'est vous la dernière, soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je vous mets une petite tartine rapide sur le remerciement de vos émissions.
Très bien.
Qui me font kiffer mon retour en voiture.
Très bien, formidable.
Trop bête. Je parce que je suis commerçante au centre-ville de Lyon et j'ai l'occasion de croiser très souvent de jeunes ados, de post-ados, et j'ai très peur pour demain. J'ai très peur que les jeunes aujourd'hui, avec la technologie qui est la nôtre, n'aient plus l'engouement de la lecture, n'aient plus envie d'ouvrir un bouquin. Les jeunes lisent moins aujourd'hui, les jeunes parlent et écrivent SMS. Donc ma question était la suivante, que peut-on faire pour redonner goût et à la langue française et au bel orthographe qui est le nôtre?
Et merci pour vous, beaucoup pour votre question, Marie-Thierry. J'ai commencé avec vous, Riyad Satouf, plutôt. Mais peut-être que c'est Esther, au fond, qui renvoie les gens à la lecture. Esther et les autres, hein, d'ailleurs. Mais les gamins, surtout, qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui ont cet âge-là.
Bah, c'est vrai que Esther, justement, depuis le premier album et jusqu'à celui-ci, ouais, elle était obsédée à l'idée d'avoir un téléphone. Et elle a fini par en avoir un. Et elle lit beaucoup moins. Et son père lui interdisait de regarder son téléphone. Et là, alors, par dépit, elle lisait des livres. Et finalement, elle en a lu énormément, beaucoup plus que ses copines qui ont eu tout de suite des portables. Il y a une simplification terrible de l'accès au texte. Même, je rencontrais quelqu'un l'autre jour qui n'en revenait pas. Il savait pas comment son petit frère, qui avait 4 ans, arrivait à regarder des vidéos sur YouTube de lui-même sur le portable. Il disait, mais il sait pas lire, il sait pas écrire. Comment il fait? Est-ce que vous sauriez deviner comment il faisait? En fait, il gardait le doigt appuyé, il demandait à Siri, il disait, mais la vidéo, En fait, ils vont même plus savoir, enfin, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça et imposer les livres, c'est vrai.
Alors, vous avez cette frayeur, vous aussi, ou
oui, non, mais là, c'est un problème qui dépasse beaucoup la langue, parce que on est quand même un tout petit peu franco-français dans cette affaire, en disant le français souffre à cause des nouvelles technologies. Mais c'est pas le français qui souffre, c'est toutes les langues du monde. Absolument. Et à commencer par l'anglais. L'anglais s'est appauvri, notamment l'anglais britannique, s'est appauvri d'une manière épouvantable. J'ai des amis anglais qui sont spécialistes du langage et qui sont encore plus inquiets que les Français. Donc je partage tout à fait cette inquiétude, mais c'est une inquiétude qui ne concerne pas le problème de la langue et du rapport des gens qui la parlent, mais qui concerne le poids de la technique qui est en train de tuer le reste, pas seulement en matière de langage, bien sûr.
J'ai une toute dernière question, parce qu'il nous reste 30 secondes à l'arrêt. Je voudrais savoir où vous avez été chercher Amphiroapé.
Ah, c'est pas moi qui suis allé le chercher, c'est un mot que j'ai entendu.
Tu veux dire tromper,
duper. 50 000 fois au Québec, que ce soit à Montréal ou à Québec, c'est un mot qu'on entend très souvent, qui est familier mais sans plus, qui est pas grossier, et qui est employé très vite. Vous savez, quand on tape sur un ordinateur, en France on tape, parfois on pianote, au Québec on a d'autres mots pour dire ça, comme le clavardage, qui est le clavier bavardage, c'est un des trucs épatants. Il y a beaucoup de ces mots québécois qui mériteraient de passer en français de France et qui malheureusement ne sont pas connus.
Voilà, eh ben, comme ça maintenant ça l'est. Ne vous laissez pas amphiroaper par les fâcheux, disons ça comme ça. Merci à vous, merci de vos nombreux appels et portez-vous bien.